France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi. Léonore de Recondo. Elsa Boublil.
Avancez sûrement dans la direction de vos rêves, vivez la vie que vous avez imaginée.
Thoreau. Cet adagio de la Sinfonia opus 4 numéro 9 de Giovanni Bononcini, interprété par l'IRIAD, ensemble que vous avez fondé avec Cyril Ovitti, Léonore de Recondo, vous qui êtes romancière et musicienne, comme nous venons de l'entendre, violoniste plus précisément, c'est aujourd'hui l'écrivaine que nous recevons, dont le dernier roman, Manifesto, nous fait entrevoir la présence fondamentale et charnelle du violon dans votre vie et celle que vous partagez avec votre père. Un roman autobiographique qui nous fait entendre les derniers souffle de votre papa et ses instants de vie soigneusement tus et qui remontent peu à peu avant sa mort. Deux monologues, celui de votre père et le vôtre, qui se croisent, se répondent et s'enchevêtrent et où la musique est verbale et merveilleusement rythmée. Bonjour Léonore de Recondo.
Bonjour.
C'est donc Manifesto, ce mélange, comme je le disais à l'instant, de musicalité, de musique, de littérature, avec cet extrait de ce disque que vous aviez enregistré avec l'IRIAD autour du compositeur Bononcini que nous vous accueillons. C'est tout ça qui vous anime depuis longtemps, ce mélange où il n'y a pas de choix véritablement à faire.
Oui, je crois que j'ai pas envie de... Si c'est possible, je préfère ne pas choisir. C'est comme si c'est quelque chose d'un regard que j'aimerais aigu et large. C'est l'image avec la musique, je suis interprète. Donc là, il y a quelque chose de la partition d'un autre, de la voix d'un autre à laquelle je viens redonner vie. Avec l'écriture, c'est autre chose d'avoir cette, aussi le travail dans le silence. Alors évidemment, c'est aussi prendre la parole et prendre la voix. Mais je suis créatrice, il y a une sorte de liberté totale et de solitude absolue. Donc pour moi, c'est en fait très complémentaire, ça vient ensemble.
Avec cette phrase qu'on a entendue au début de l'émission du naturaliste et philosophe américain H.D. Thoreau, qui dit « Avancez sûrement dans la direction de vos rêves, vivez la vie que vous avez imaginée », qui complète bien ce que nous venons de dire, et qui n'est pas, un poète choisi par hasard, parce que le naturalisme, dans cet univers qui est le vôtre, musical et littéraire, la nature, en tout cas dans Manifesto, était extrêmement présente.
Oui, c'est très important. Enfin, moi, la nature m'émerveille. C'est la beauté d'une lumière, la beauté d'une forêt, la beauté d'un paysage, ça me remplit de joie, je crois. Et cette quête, peut-être, justement, de cette joie-là, de la retrouver en moi et de la redonner à d'autres, c'est ça qui m'anime. Et je pense qu'on se limite parfois dans nos vies. Donc le fait déjà d'aller plus loin en écrivant et en jouant de la musique et en imaginant un endroit où je pourrais être, d'autres territoires, c'est là que j'ai envie de m'imaginer. J'ai envie d'essayer d'aller plus loin que ce qui m'est offert.
Et vous aviez imaginé votre propre vie qu'ici?
Non, je suis surprise de, en tout cas, de l'arrivée de la littérature, même si j'ai toujours beaucoup lu et que les livres m'ont accompagnée depuis le début, vraiment autant que la musique. J'ai adoré rentrer dans les livres, me plonger dans les voyages, me plonger dans les univers, me plonger dans les mots des autres, me plonger dans cet imaginaire qui s'ouvrait en moi grâce aux livres, un autre imaginaire que la musique. Donc après, le fait d'écrire et d'être publié, je crois que c'était ça qui était inattendu.
En tout cas, le programme de ce matin sera très, très violonistique, forcément. Vous êtes l'invité Léonore de Recondo de Musique et moi ce matin jusqu'à midi et demi. Et je propose qu'on commence avec ce premier souvenir musical comme il se doit à chaque fois au début d'émission. L'orchestre Monteverdi et Charles Brett, sous la direction de John Eliot Gardiner, interprètent ce Strike the Viol, extrait de Come You Sons of Art de Purcell. Donc, allons, fils des muses, avec ce Strike the Viol qui semble être un appel, en fait, à jouer de la viole, Léonore de Recondo, composé pour les 33 ans de la reine Anne. Il y a quelque chose de très joyeux et d'enfantin, mais vous disiez que ça vous renvoyait, vous, à votre propre enfance.
Alors, ce disque, mes parents, dans l'atelier où ils travaillaient tous les deux, donc mon père dessinait, ma mère aussi, ils l'ont écouté en boucle. Et moi, je me souviens très 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 bien de la pochette de ce vinyle, 33 tours que j'allais mettre, j'avais 3-4 ans, et j'adorais. Donc, il y avait des grandes baffles, des grands haut-parleurs dans l'atelier. Je me faisais une petite cabane autour des baffles avec des fauteuils, avec des coussins. Je prenais ma poupée, j'allais mettre le disque, je m'allongeais et j'écoutais ça en boucle. Et c'est Purcell, et Purcell m'a accompagnée dans ma vie, dans des moments importants. Donc, je pense que l'ouverture à la musique, c'est venu avec, en effet, cette gaieté dont vous parlez, cette beauté. Il y a une sorte d'élégance aussi, je sais pas, c'est une joie, mais c'est une joie tout à fait maîtrisée, très délicate, très très attentive. Je sais, il y a quelque chose là de qui, alors certainement aussi l'appel vers la musique baroque après, mais je garde un souvenir très très ému de ça, une sorte de joie d'enfance.
Et vos parents, vous les décrivez crayon à la main. D'ailleurs, dans Manifesto aussi, on voit votre père quand il s'apprête à vous parler, finalement il prend son crayon.
Oui.
Mais ils écoutaient de la musique en travaillant.
Oui, ils écoutaient beaucoup de musique en travaillant, en dessinant tout le temps. Ils écoutaient beaucoup la radio aussi, et des disques. Donc il y a des disques comme ça, et puis bon, comme on fait souvent, quand on a un disque qu'on aime, on peut l'écouter plein de fois. Moi je fais pareil. Il y a des vagues comme ça de disques que j'écoute en boucle, et eux ça a été ça, et moi je sais pas, oui, il y a une sorte de passion pour ce disque, et je me collais, je me souviens très bien de me coller à ces baffles qui étaient assez grands, qui devaient mesurer, je sais pas, 70 cm, donc ils devaient faire à peu près la même taille que moi.
Presque un doudou, en fait.
Presque un doudou musical. Et puis peut-être, alors, et puis il y a quelque chose de presque de fétal là-dedans, parce que je venais me recroqueviller en boule contre ces baffles, et je pense que je devais retrouver, je sais pas si ma mère avait écouté ça ou pas, enfin il y avait une sorte de bien-être, enfin c'est plus que ça, j'étais bien heureuse quand j'étais là recroquevillée à écouter cette musique.
Vos parents faisaient, à part dessiner, votre père sculpteur, oui. il était sculpteur, oui. C'est ça, et votre mère?
Oui, ma mère dessinait.
Aussi. Donc c'était votre lien, finalement, la musique, le son, la parole passait peut-être par la musique aussi.
Oui, sûrement. Puis j'étais avec eux dans cet atelier où ils travaillaient. Moi, je trouvais mon petit terrier là.
Thank you. Isabelle Faust interprète la fin de cette partita numéro 1 en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Et alors, on l'écoutait et on le savourait, Léonore de Recondo, mais vous l'avez pratiqué encore ce matin avant de venir.
Oui, c'est ça, ce double que je trouve merveilleux. Il y a un balancement dans cette musique qui est toujours que, ce ne sont que des croches tout le long de la partition. Et il y a des appuis, c'est une danse. C'est très très beau. Moi, j'adore travailler ça. C'est vrai que c'est mon... C'est ce que je travaille.
Oui, parce qu'à la fois, c'est l'occasion techniquement de garder un bon niveau. Et j'imagine que ça va bien au-delà de la technique.
Oui, parce que c'est infini. Je sais pas, moi, je trouve ça assez émouvant de savoir que Bach va m'accompagner toute ma vie et que je ne vais jamais arriver à le jouer. Parce que c'est une musique qui marche dans tellement, tellement d'orchestrations. Ça a été transposé, ça a été changé d'instrument. Il y a eu des versions de jazz. Il y a quelque chose de tellement exceptionnel là que ça fonctionne. Cette musique, elle fonctionne. Et je sais pas, ça m'ouvre l'esprit. Ça me met, je sais pas, en éveil.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avec Léonore de Recondo, violoniste et écrivaine, invitée ce matin de Musique et moi. Donc, vos premiers souvenirs de violon, parce que ça remonte à quand on lit Manifesto, c'est 3-4
ans. Oui, je crois que le violon a dû arriver. J'ai commencé à demander quand j'avais 4 ans, donc je suis née en 76, donc ça devait être en 1981. J'avais un cousin, Romain Humeau, qui est un grand musicien aussi, qui jouait du violon. Son père, le frère de ma mère, donc mon oncle, Philippe Humeau, est facteur de clavecin. Donc on était dans cette atmosphère déjà baroque, et c'est une famille où tout le monde faisait de la musique. Donc mon cousin, qui a peut-être 10 ans de plus que moi, jouait du violon. Et j'ai dit, je veux jouer du violon. Donc mes parents se sont dit, bon, c'est peut-être une petite lubie d'enfant, on va attendre un peu. Et finalement, ils ont demandé à Romain de me prêter son violon qu'il avait avant. Donc ça devait être un 8e, ou un tout petit, ou un 16e, un tout petit violon. Et je me souviens en effet parfaitement du jour où cette boîte est arrivée dans l'atelier. Elle était par terre, et je me suis dit, là, il y a quelque chose dans cette boîte, ça va changer ma vie. Et j'ai tourné autour de la boîte et j'ai commencé à jouer du violon. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est trop loin. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas vraiment de souvenirs avant le violon. Mais je me souviens de ça.
Et même 4 ans, d'arriver. C'est jeune comme souvenir.
Oui, mais je savais. Puis je pense que c'était un grand événement pour tout le monde aussi. Certainement que je commence à jouer de la musique, c'était pas anodin. Mes parents me l'avaient pas imposé, comme ça arrive parfois dans les familles. Où on dit, moi, tu peux jouer du piano, tu peux jouer de ceci. Là, il n'y avait pas du tout. Ils n'avaient jamais parlé de me mettre un instrument ou quoi. Donc je pense que ce désir-là que j'avais répété et qui venait s'exaucer là avec ce violon qui arrivait, c'était un événement. C'était un événement pour moi.
Tu as tout de suite trouvé sa place aussi sur votre corps?
Oui, non, c'est long, des années.
En tout cas, c'est une famille quand même de musiciens.
Oui, 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 il y avait de la musique, ils étaient mélomanes.
On va sortir un tout petit peu de l'orthodoxie baroque, mais on ne reste pas loin de Bach, même on reste avec Bach. disais, on sort de l'orthodoxie, Léonore de Recondo, avec cette partita numéro 1 en si bémol majeur de Bach, interprétée par Glenn Gould, parce que, bien sûr, vous qui avez grandi avec le clavecin, le facteur de clavecin autour de vous, là, ça a fait controverse d'ailleurs beaucoup, cette interprétation de Glenn Gould.
Ah, mais j'adore, moi je trouve qu'il est fantastique, le toucher, hein, dont on parle beaucoup en clavecin, l'art du toucher, lui vraiment, il l'a, c'est l'articulation, la clarté de son jeu, la manière dont il nous transmet cette clarté et la manière dont on le reçoit. Enfin, moi, je trouve que Glenn Gould, mais Bach, évidemment, de toute manière, il vaut mieux Glenn Gould au piano qui joue ça qu'un mauvais claveciniste. Enfin, de toute manière, il y a un moment où ça n'a plus de sens, ces querelles-là. Et Glenn Gould, il rend Bach, comme, je sais pas, ça devient limpide, on le comprend et en même temps, c'est senti. Enfin, moi, j'adore. Je trouve qu'il est fabuleux, cet interprète. Et on l'entend chanter. C'est-à-dire, on l'entend faire comme ça quand il joue, il marmonne en même temps, il est dedans, c'est miraculeux.
Et puis vous le disiez aussi, il y a ce sentiment étrange de tout entendre.
Oui.
Ce qui est fascinant parce qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de voix.
Oui.
Vous qui travaillez avec les voix, cette façon de savoir faire entendre des voix distinctes de cette manière-là, c'est saisissant.
C'est saisissant, puis c'est la technique qu'il faut, c'est-à-dire on peut entendre des choses en soi, après comment on les retranscrit, c'est-à-dire non seulement il faut déjà avoir l'intelligence de comprendre la partition qui parfois est quand même extrêmement complexe, et ensuite de réussir à faire que cette partition devient très claire. Donc ça passe par le vecteur technique, ça passe par l'instrument, et ensuite ça nous arrive directement. Il y a quelque chose qui fait qu'on arrive à lire le cerveau de Glenn Gould. On est avec lui, il y a une sorte d'osmose avec Bach et Glenn Gould.
Et le vrai souvenir ?
Et le vrai souvenir de Glenn Gould, c'est arrivé un peu plus tard en fait. Glenn Gould, j'étais déjà adolescente, c'était sous forme de CD. Et ça a été une grande, grande découverte aussi. Justement, il y a quelque chose de très pétillant, il y a quelque chose de... Je sortais, moi, d'années où j'écoutais beaucoup Schubert, j'étais dans une sorte de romantisme adolescent, de cette musique comme ça, très, très pénétrante, très, très enivrante. Et là, il y a la joie de Glenn Gould. Et puis justement, cette clarté où on se dit, il faut chercher ça, il faut chercher une intelligibilité, en fait, pour pouvoir transmettre exactement ce que l'on comprend. Mais c'est, comme vous le disiez, c'est la même problématique pour l'écriture. Comment j'écris ce que je vois dans mon esprit, comment j'écris ce que j'entends, comment je fais pour que l'autre le saisisse exactement.
Ce chemin musical qui est le vôtre, c'est un chemin solitaire. On a l'impression que vous vous êtes fait votre chemin de votre côté, à côté de vos parents, mais de votre côté.
Oui, je crois que j'avais besoin de trouver mon territoire dans tout cet art qui était là.
Thank you.
Ginette et Jean Neveu, le frère et la sœur, interprètent La vie brève de Manuel de Falla, pour évoquer avec vous cette passion pour cette violoniste. Oui. Qui est arrivée à quel moment de votre vie?
Alors, j'étais adolescente aussi. J'ai découvert deux enregistrements. Alors, le concerto de Sibelius, le concerto de Brahms et Tzigane de Ravel. Pour moi, Ginette Neveu, je voulais être Ginette Neveu. Moi, ce qui me touche beaucoup dans sa manière de jouer du violon, c'est l'attaque qu'elle a de la corde. Elle ne lâche pas la corde. Il y a quelque chose de très engagé dans son geste qui me plaisait. J'avais envie de faire comme elle. Il y a aussi quelque chose dans ses enregistrements qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Les enregistrements sont très découpés, très très montés. Et à cette époque-là, je pense que ça doit dater des années 40.
Ouais.
On faisait des prises entières.
C'est une prise, ouais.
C'est une prise, et si elle n'est pas bonne, on recommence. Ça veut dire qu'il y a un souffle dans chaque prise. Il y a quelque chose, justement, du très très grand geste de la prise qu'on retrouve. On le sent malgré nous, même si on n'est pas tout à fait conscient de ça, de cette tension entre elle et son frère. Et puis bon, elle a eu ce destin tragique
ouais.
Puisqu'elle est morte en 49 dans cet avion avec Cerdan.
Avec Bernard Boutet de Montvel.
Aussi, ils ont cet avion qui s'est échoué sur les Açores. Elle avait son Stradivari. Cette histoire de ce violon, de cette jeune femme. Et puis bon, imaginons quand même une femme soliste dans les années 40, c'était quand même très très rare.
Ouais.
Donc il lui fallait une force et une énergie. D'ailleurs, les photos qu'on voit d'elle, elle a ce regard comme ça, très de feu, un regard noir, très, je sais pas, elle avait quelque chose que je trouvais très très beau. Et puis c'est une grande, grande, grande violoniste.
Et puis, Manuel de Falla, pour évoquer aussi oui. avec vous l'Espagne de votre
oui.
père, qui,
oui.
qui plane comme ça,
dont
vous cherchez à en savoir plus.
Oui, c'est ce territoire espagnol. Donc, mon père est né en 1932, il fuit en 36 le franquisme. Ils sont basques espagnols, ils passent côté nord, à Hendaye, et puis ils ne vont jamais revenir. Tant que la dictature de Franco est en place, donc jusqu'à la mort de Franco, c'est-à-dire 75, ma grand-mère après revient pour mourir au Pays Basque, mais mon père n'est jamais revenu. Donc il y avait une sorte de mélancolie, mais je pense que cette mélancolie, moi, je ne suis pas sûre que mon père l'avait mis. Il portait celle de ses parents, il portait celle de ses grands-parents, il portait celle de cette Espagne laissée, il portait celle aussi du déclassement social, celle d'une vie d'insouciance et tout d'un coup l'exil, la politique, la Seconde Guerre mondiale, une sorte de noirceur de ces temps qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Donc évidemment, lui, il parlait espagnol et basque, il m'a appris aucune de ces deux langues. J'ai appris l'espagnol, j'ai fait les 10 premières leçons de la méthode assimile de basque. Je ne sais donc rien dire, c'est quand même une langue extrêmement difficile, je ne désespère pas de l'apprendre un jour. Mais en effet, à partir du moment où il était mort et qu'il n'était plus là pour parler de ce territoire, je m'en suis emparée en écrivant, en parlant de Guernica, en parlant de cet endroit basque, la mer, la montagne et de toute cette nature extrêmement prégnante quand même. Hein.
Et de ce père qui... ne dit rien tout en disant beaucoup de choses et qui, dans son lien à vous, vous construit un violon.
Oui.
Et je voulais juste citer, parce que par rapport à cette interprétation que vous citiez oui. là de Ginette Neveu, voilà, vous vous dites dans les mots de votre père, c'était la première fois que je devais sculpter une forme qui donne du son, du sens avec du son, et je ne savais pas comment m'y prendre.
Oui. Ce qui est intéressant par rapport à la sculpture, c'est que la sculpture est un but en soi de beauté, mais que l'instrument, il doit être joué pour exister. Donc c'était autre chose, du sens avec du son.
L'ouverture de Didon est née de Purcell par le concert spirituel sous la direction de Hervé Niquet. C'est une ouverture que vous avez dirigée à l'Opéra de Montpellier,
Léonard? Oui, en 2009. L'Iriade, dans sa version élargie, a été invitée donc, pour la mise en scène de ce Didon est né. La mise en scène était de Jean-Paul Scarpita. Et donc, on a fait, je crois, 4 ou 5 ou plus de représentations. Donc, pour moi, je l'ai dirigé du violon. C'était évidemment une expérience extraordinaire de le travailler avec la scène, le travail dans une maison d'opéra, de découvrir la hiérarchie. Assez coincé quand même, hein. C'est difficile, ces maisons d'opéra. Et évidemment, cette position de pouvoir, assez rare pour une femme. Et aussi, que ce soit cette œuvre-là, que ce soit Purcell, alors que, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on a écouté au début, Purcell.
Ouais,
il y avait une sorte de lien pour moi, comme ouais. Ça, qu'il y a un hasard, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûre de diriger à nouveau un opéra. Ma vie n'a pas l'air de prendre ce chemin-là, mais on ne sait jamais. En tout cas, l'opéra que j'ai dirigé était de Purcell, et Didon est né, est vraiment un chef-d'œuvre. Je trouve que c'est une très grande beauté. Là aussi, il y a une joie, il y a la danse, il y a évidemment l'air de Didon, mais il y a des chœurs. Le chœur final est vraiment très très beau. La langue anglaise chantée, ça marche très 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 bien. Donc, cet opéra, évidemment, a beaucoup de sens dans ma vie parce que c'était un moment important.
Quel était votre désir avec Cyril Ovitti quand vous avez fondé l'Iriade? C'était explorer des territoires, des répertoires encore peu...
Oui, c'était explorer surtout le répertoire des cantates, qui est peu joué en général, et il y en a vraiment énormément à la BN. Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à la Bibliothèque Nationale, à chercher des manuscrits, à chercher des premières éditions du 17e et début 18e de partitions qui n'étaient pas jouées. Il y en a une multitude, donc il fallait trouver des partitions qui marchent avec la tessiture de haute contre de Cyril Ovitti, mais ça a été une grande joie de chercher.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et puis il y a l'improvisation, j'imagine, avec la musique baroque. Oui. C'est le chant que ça pouvait vous laisser, que ça vous laisse.
Oui. Alors, quand on fait des études poussées de violon pour devenir professionnel, on fait surtout le 19e siècle. Et dans toute cette interprétation du très grand répertoire, comme on dit, il y a tellement de grands violonistes qui sont arrivés avant nous que c'est difficile de s'approprier ça. C'est difficile de le regarder avec un regard neuf, de l'écouter avec des oreilles neuves. Alors que justement, quand j'étais à la Bibliothèque Nationale et qu'on se retrouve devant un manuscrit qui n'a jamais été joué, alors là, le chant est libre. Et en plus, évidemment, c'était encore un moment où il y avait la possibilité d'improviser beaucoup plus. Et ça, dans le violon, en tout cas, l'improvisation, pour moi, la découverte de Corelli, ça a été un moment extraordinaire de ma vie. Il y avait quelque chose qui s'élargissait. Enfin, ça se rapproche du jazz, de toute manière. Hein. Ça me plaît.
Alors, on va poursuivre dans cette idée-là avec cette ballade d'Isaïe, dans laquelle il a laissé complètement son imagination aller à sa guise, avec Laurent Corsia à l'interprétation.
Thank you.
La sonate en ré mineur opus 27 numéro 3 à Jean Genesco de Eugène Ysaÿe, interprétée par Laurent Corsia. Une superbe ballade. On parlait de la notion d'improvisation. Là, on est dans de la liberté en tout cas. Léonore de Recondo, c'est une ballade qui a compté dans votre vie, que vous avez interprétée, jouée.
Oui. Alors aussi, juste pour dire qu'Ysaÿe, violoniste, est dans la grande tradition des violonistes qui écrivent pour leur instrument. Donc comme Paganini, comme Corelli, comme Vivaldi, comme toute cette tradition-là, Tartini aussi, qui donc explore leur virtuosité et le possible de l'instrument. Oui, alors moi je suis partie à 18 ans faire étudier à Boston. J'ai eu une bourse pour étudier avec une femme française, Michèle Auclair, qui enseignait au Conservatoire National à Paris, mais qui prenait sa retraite et qui donc n'enseignait plus qu'à Boston. Je l'ai suivie. Laurent Corsia a été un de ses élèves. C'est une femme très très dure. Elle avait fait ses études en Russie dans cette grande tradition de marche ou crève.
Une exigence,
mais terrible, terrible, terrible. La notion de plaisir n'existait mais absolument pas. J'avais deux cours par jour. Il fallait que je prépare un deuxième programme pour la fin. C'était la folie furieuse. De telle sorte que, il y a un certain moment, j'ai quand même perdu pied. Et j'ai perdu pied avec la mémoire. Je n'arrivais plus à jouer une seule note par cœur, tellement j'étais terrifiée par mon instrument.
Ah oui.
Et je devais jouer cette ballade pour mon prix, Et il fallait que je la joue par cœur. Donc, c'est posé devant moi un gros problème. Et j'ai trouvé un chemin de mémoire qui a été le paysage. La seule manière que j'ai trouvée pour pouvoir parcourir cette partition avec mon instrument, c'était d'en faire un paysage. Je démarrais une route qui était un chemin dans un paysage, et en parcourant cette route, enfin, il fallait plus que ce soit des notes. À partir du moment où j'avais des notes dans la tête, je perdais mes moyens. Mais si je jouais cette partition en traversant un paysage toujours le même, avec des points de repère, un arbre à droite, une maison par là, une colline, ces 10 minutes que dure ce morceau, j'ai pu les jouer comme ça. Donc j'ai pu explorer une autre partie peut-être de ce que peut être la musique et de comment on fait le lien entre son cerveau et ses mains et toutes les connexions nerveuses et aussi émotionnelles pour pouvoir continuer de jouer. Donc oui, cette balade d'Isaïe que je trouve est très très belle parce que et Laurent Corsia la joue très bien parce qu'on garde cette notion d'improvisation dont vous parliez est en fait tout à fait écrite. Donc il fallait que je puisse jouer toutes ces notes-là et donc cette partie a pour moi un souvenir très très fort.
Et justement par rapport à ce paysage mental que vous avez su créer pour pouvoir la jouer de mémoire, cette balade nous mène tout droit sur aussi cette notion, je voulais évoquer avec vous la notion d'improvisation, même si tout est écrit dans cette partition, c'est parti d'une improvisation et l'écrivaine que vous êtes devenue a dû s'inspirer des chemins de liberté que laisse l'improvisation, j'imagine.
Oui, bien sûr. Mais je crois que plus on explore en soi, plus on élargit notre champ, qu'il soit vocal ou qu'il soit terrien. Et de pouvoir explorer la mémoire de cette manière-là, de pouvoir explorer l'émotion à travers un instrument, de pouvoir explorer les manuscrits, de pouvoir explorer la pensée d'un autre, tout ça vient enrichir la mienne. Et donc la notion d'improvisation aussi dans l'écriture et la notion simplement de liberté possible à travers mon esprit, la discipline aussi que cela demande comme l'apprentissage d'un instrument, le travail, la discipline de pouvoir élargir son champ, ça je me suis engagée de cette manière-là en littérature pour pouvoir voir d'une manière plus vaste et puis peut-être comme ce que le dit Thoreau, pour pouvoir imaginer encore plus loin et vivre cette imagination, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, c'est d'en faire une vie, c'est de l'incarner. Oui. L'imaginaire.
Et par la répétition aussi.
Et par la répétition, par le geste répété qui, à force d'être répété, se devient parfait.
Thank you.
Jakub Józef Orliński avec Il Pomodoro et interprète Vedrò con mio diletto, l'acte 1, scène 8 de Il Giustino de Vivaldi. C'est un de vos derniers coups de cœur, l'Honore de Recondo. Et c'est intéressant parce que vous aviez envie qu'on le mette en regard avec la version de Cecilia Bartoli qui est aussi magnifique. Oui. Pour quelle raison?
Alors d'abord parce que c'est un homme et une femme qui chantent avec la même tessiture, donc exactement les mêmes notes. Donc ça, je trouve que c'est toujours très intéressant d'entendre le grain de la voix. Il y a le grain de la voix de solaire, d'une beauté extraordinaire qu'on vient d'entendre de Jakub Orliński, sorte d'aisance, de jeunesse, de fraîcheur, d'éblouissement.
Et de liberté aussi.
Et de liberté. Hein. Et la voix de Bartoli, qui est une femme de 50 ans, qui vous chante ça dans l'oreille avec une très 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 belle interprétation aussi, qui est ailleurs. C'est l'exploration, tout est possible dans l'interprétation. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup de joie parce qu'on se dit qu'on est donc quand même encore très libre, même si on interprète la partition de quelqu'un d'autre. Et là, c'est-à-dire Jakub Orliński, il a cette beauté pure, c'est un émerveillement. Ouais. Et ça, ça nous remplit de joie. Moi, je l'écoute et je me dis que le monde va bien.
Oui, vous disiez on peut sortir les briquets, c'est très juste.
Oui, on a sorti les briquets dans le studio. Vous ne voyez pas, mais on est au bord des larmes.
Et bien sûr, cette question de la tessiture, enfin de la voix féminine ou masculine qui va interpréter cet air, la question du genre, de cette frontière entre le masculin et le féminin est posée régulièrement dans vos romans.
Oui, j'ai en effet mon roman Point cardinal qui a précédé l'histoire d'une femme trans. C'est-à-dire, moi, je crois que tout est fluctuant. Je crois qu'on bouge. Je crois que tout est transversal et non pas vertical comme toujours. On est dans une société où on doit se déterminer tout le temps, se définir. Que fais-tu? Où es-tu? Que dis-tu? Et toujours se spécialiser. Or, je pense qu'on peut avancer de front et je pense qu'on a le droit de bouger. Je pense qu'on a le droit d'être mouvant et il faut être mouvant. On a du féminin, du masculin en soi et on peut passer de l'un à l'autre ou pas et on peut, enfin, ça bouge. Bougeons en même temps que nous-mêmes.
Garder les frontières ouvertes, c'est pas quelque chose de donner non plus. Est-ce que dans l'écriture, vous ouvrez ces portes-là aussi? Enfin, vous souhaitez les ouvrir?
Oui, je sais pas, ça n'est pas conscient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir le monde autrement. Je trouve que la beauté, moi, c'est mon travail de tous les jours, d'essayer de faire mieux, d'essayer de donner à voir autre chose. Et c'est un acte de générosité aussi envers soi et envers les autres, d'essayer de donner à voir quelque chose de plus beau.
Sans jugement.
Sans jugement.
Scène du commandeur de Don Giovanni de Mozart, interprétée par le Philharmonia Orchestra sous la direction de Carlo Maria Giulini. C'était une version qui vous est chère, Léonard de Recondo.
Oui, c'était la version qu'on avait à la maison, que j'ai beaucoup écoutée. J'ai une passion pour Don Juan. Don Giovanni, déjà pour cette version, j'ai beaucoup écouté cette air-là avec le commandeur, parce qu'il y a cette rigueur qui arrive, et c'est enfin Don Juan qui, quand même, s'est assez mal comporté, va être puni. Et puis surtout, le film. Film de Lozay, que j'ai vu, je devais avoir 10 ans, enfin je sais pas exactement, je me souviens pas. Mais je me suis acheté l'énorme affiche du film qui était dans ma chambre, qui m'a suivi partout, même aux États-Unis, je l'avais pliée, je l'avais mise. Et alors la beauté du film, la beauté de cette villa palladienne où ça se passe, et Ruggero Raimondi, je pense que c'était mon premier amoureux. Mais vraiment, j'étais en transe de voir ce film. J'ai beaucoup écouté la cassette qui allait avec. Mais non, ça, j'aime beaucoup cet air pour parler plus de musique. Parce que il y a le commandeur qui arrive avec cette voix de basse d'outre-tombe, puisqu'il s'agit de ça, dans une rigueur absolue. Et il y a Don Juan qui commence à flancher, qui commence à trembler. Il y a l'orchestre qui arrive.
C'est un jugement. Quoi.
Ouais. Et il y a l'Eporello qui bafouille. Et cet air, moi, l'air du commandeur, quand il arrive, c'est ce froid, la mort. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a un certain moment, on paye ses factures.
Mais on va tout droit aussi à votre roman, même s'il n'y a pas de jugement du tout avant le décès de votre père. Mais on est à ce moment-là de cet air froid, effectivement, qu'on sent présent dans la chambre d'hôpital de votre père. Ce moment-là, juste avant la disparition, c'est un moment bien décrit par Mozart dans l'effroi que ça procure.
Oui, je pense que c'est le grand mystère de ce passage, puisqu'on parle du passage de la vie à la mort. Alors après, chacun l'interprète. Mozart là l'interprète dans cette sorte de grouillement, de mélange de rythmes. Moi, je l'ai imaginé dans quelque chose d'une conversation, dans le silence aussi, parce que je crois que beaucoup de choses se passent là, entre les phrases, dans les non-dits.
La sonata da Chiesa a tre en ré mineur opus 1 numéro 11 de Corelli, interprétée par l'ensemble Aurora. C'est une sonate que vous avez beaucoup écoutée, je crois, Leonora Condo.
Oui, pour moi ça a été un choc, cette sonate, de découvrir après mes études de violon donc moderne, de découvrir Corelli, dont j'avais pas entendu parler, de découvrir cette possibilité du violon, l'improvisation, et puis quelque chose de cette musique italienne, comme ça, qui est large, qui est ample, qui est très 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 belle, donc des sonates d'église qui étaient jouées à l'église. Corelli a écrit d'autres sonates qu'on connaît aussi, qui ne sont pas d'église. Alors, c'était une vraie révélation. J'ai ensuite pris des cours donc de violon baroque avec le violoniste qui dirige l'ensemble Aurora, qui est Enrico Gatti, qui est un très très grand spécialiste de la musique italienne des 17e et 18e siècle. Donc j'ai appris vraiment beaucoup de choses avec lui et ça a été vraiment une révélation instrumentale et même de culture générale.
Je pose l'appareil sur la table, le volume au maximum. Nous écoutons tous les trois les sonates da Chiesa. Le son n'est pas bon, mais tu as tellement écouté cette musique qu'elle résonnera de toutes les fois passées. Je regarde si ton visage change quand la musique commence. Non, tu respires faiblement, c'est tout. Je retourne à la fenêtre, je vois du rose qui pointe au loin. L'hôpital est encore calme. Pour combien de temps ? J'ai peur de l'agitation du jour. J'ai peur. Nous sommes bien là, tous les trois. J'aimerais que cet instant s'étire. Nous pourrions dormir un peu près de toi et reprendre notre souffle avant que tu ne retournes à mourir et nous à vivre. Extrait de Manifesto, Leonore de Recondo. On est donc complètement avec cette musique. Mm-hmm. Elle est presque l'empreinte familiale.
Il y a eu beaucoup de musique, il y a eu beaucoup d'empreintes familiales. Il y a eu aussi, alors j'ai la chance que mes parents aient toujours été très attentifs à ce que je faisais, donc aussi quand je me suis plongée dans le répertoire baroque, ils s'y sont plongés avec moi. Et donc c'est cet enregistrement d'Enrico Gatti, ça a été pour nous tous, une révélation, une découverte d'une certaine musique, d'un certain violon.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et ce violon que votre papa vous construit, qu'on retrouve tout au long du roman, c'est magnifique d'ailleurs, cette façon qu'il a de faire une transmission finalement avec vous. C'est un violon que vous n'avez bien sûr jamais joué.
Alors je l'ai joué un petit peu pour lui faire plaisir. Ouais. C'était pas le meilleur des violons, mais c'était le plus beau des violons, on va dire. J'avais envie de mettre en fil rouge cet instrument dans le roman parce que on part de la forêt et on arrive à la musique. Il y avait quelque chose de vraiment de la grande épopée de ce que peut être une création, c'est-à-dire on part de la nature, on part d'un matériau brut et puis petit à petit il y a quelque chose qui s'élabore et à la fin c'est l'évanescence même, c'est la pensée, c'est l'émotion, c'est la musique. Et ça, je voulais qu'en effet mon père arrive sur ce petit banc pour parler avec Ernest Hemingway. Il a cet étui de violon. Et il va lui montrer à la fin, il lui dit, ça sera pour la belle fin, le violon. Thank you.
L'intermezzo en si bémol mineur de Johannes Brahms, interprété par Katia Bunyatishvili, qui ici nous offre dans cet album, d'ailleurs Motherland, quelque chose d'extrêmement intime. On est, on pourrait parler de berceuse de la douleur de Brahms, quelque chose à la fois d'enfantin et de tragique, mais tout en retenue. Léonore de Recondo, ça fait partie des disques que vous avez beaucoup écoutés.
Beaucoup, que je continue de beaucoup écouter, parce que il y a quelque chose d'une douceur, d'une profondeur, d'une onctuosité dans son toucher, là, de la prise de son aussi, que je trouve vraiment très très belle, qui me bouleverse. Elle a quelque chose aussi dans la manière de vivre les notes, de vivre la transition entre les notes. Il y a quelque chose là qui se tend. Il y a une épaisseur, et puis il y a ça, il y a une sorte de délicatesse et de douceur.
Et vous le disiez, ce qui se dit entre les notes et qui rejoint, vous, le travail remarquable que vous avez fait dans Manifesto, où au-delà des mots, il y a quelque chose qui transparaît, il y a comme une musique, comme une tonalité presque qui nous rejoint. C'était pensé ou vous vous êtes laissé bercer par les mots que vous aviez besoin d'écrire ?
Non, je crois que ça, j'y travaille. Je travaille à une fluidité, à un phrasé de la phrase, à un rythme, à une harmonie. Et surtout pour ce livre qui est quand même la transmission d'un geste artistique, la transmission d'un geste poétique, il fallait que le contenant soit à la hauteur du contenu. Et pour ça, il fallait que j'arrive non seulement à dire des choses intelligentes, j'espère, mais en tout cas que ce soit dans cette forme de beauté, puisque c'est ma recherche, puisque c'est ma quête, puisque ça a été cette quête que l'on m'a transmise. Et ça, c'était très 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 important. Et de toute manière, en général, dans mon travail littéraire, je suis attentive à la possibilité du silence, à l'épaisseur du silence, à tout ce qui traverse les phrases et tout ce qu'on entend sans que ce soit écrit.
Eh ben, c'est très réussi, avec l'élégance, effectivement, de l'accompagnement d'un mourant à la disparition. On va se quitter, déjà. Léonore de Recondo, avec un dernier coup de cœur. C'est Sébastien Dossé qui interprète William Webb, Powerful Morpheus Let Thy Charms.
J'adore ce disque, c'est vraiment très très beau disque de musique anglaise.
Et là aussi, on est dans l'élégance
aussi,
pure.
Absolument.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à
vous. Je rappelle que Manifesto a paru chez Sabine Vespizer et c'est un roman à lire à tout prix.
Merci.
Merci. Thank you. On se quitte sur ce William Webb pour terminer l'émission avec Léonore de Recondo. C'était Cédric Chatelus à la prise de son ce matin, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique et une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain à 11h. N'hésitez pas à aller sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi où tous les titres que nous avons diffusés se trouveront. Très beau dimanche et à dimanche prochain.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.